BFM Business, l'heure H, la question du jour.
David Bavrez, merci d'être avec nous. Vous arrivez de Hong Kong. Oui. Mais du reste, pardonnez-moi, vous voyez, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous n'avez pas de masque, vous êtes passé dans une zone de décontamination par rapport à cette épidémie du coronavirus. Pas la peine quand on revient d'Hong Kong.
Non, on m'a accueilli à Roissy en me donnant un papier qui me dit que si je suis contaminé, je peux appeler le 15.
Mais jusqu'à
présent, ça se passe très bien.
Oui, d'accord, vous ne toussez pas, donc tout est bien pour nous. Est-ce que vous, on s'en souvient, vous connaissez très bien la Chine, vous avez même écrit Paris-Pékin Express, c'était aux éditions François Bourin. Vous connaissez bien la Chine, je le disais. Comment, c'est quoi la situation là-bas? Est-ce que c'est complètement à l'arrêt, y compris à Hong Kong? Comment est-ce que vous avez vécu ces 15 derniers jours?
C'est un peu un monde à l'envers, parce que la dernière fois qu'il y a eu une épidémie comme ça, c'était en 2003, c'était à Hong Kong. Ouais. Et la Chine, à l'époque, disait, il n'y a pas de problème. Et c'était les Américains qui disaient, mais arrêtez, vous avez un énorme problème. Aujourd'hui, les Chinois nous disent, il y a un énorme problème. C'est pour ça qu'on a mis l'équivalent de la population française, qu'on la contrôle et qu'elle ne peut plus sortir. Et puis ce sont les investisseurs américains qui nous disent, non mais attendez, c'est pas un problème. Il y a 10 millions de morts par an en Chine, là on en est à 500. Nous, aux États-Unis, on a 100 000 morts par an de la grippe et de pneumonie. Il n'y a pas de problème. Et vous noterez que la bourse américaine continue de monter. Donc, c'est un monde en vrai. On se demande où est la fake news? Qui nous ment? Et la réalité, c'est qu'on est entre les deux. Et la meilleure source d'information, ce sont les entreprises chinoises qui nous disent comment elles s'adaptent et comment elles voient la situation. Et donc, vous avez eu l'exemple hier de la société Foxconn qui fabrique tous nos iPhones.
Oui.
Et qui a dit, à ce stade, compte tenu de ce qu'on sait, on s'attend à un impact sur le chiffre d'affaires de 2020 de l'ordre de 1 à 3%. Donc 1 à 3%, pas très impressionnant.
C'est beaucoup et pas beaucoup, quoi.
C'est à la fois, oui. C'est gênant, oui, quand des chefs d'entreprise, mais enfin, c'est pas la fin du monde.
Bien sûr.
Et donc, il faut essayer de comprendre. Et au milieu de cette tragédie, il y a un morceau de chance, comme toujours dans la vie, c'est que ça arrive au moment du nouvel an chinois, où de toute façon, la Chine s'arrête.
Oui.
Au moins une semaine. Et quand, si vous connaissez la Chine, quand vous reprenez vos activités après le nouvel an chinois, vous perdez de toute façon 10, 20, 30% de votre personnel parce qu'il va d'une entreprise à l'autre. Donc en fait, on sait très bien, historiquement, que le mois de février en Chine est toujours un mois très bas. Et au mois de janvier, vous avez constitué des stocks en prévision d'environ, en général, un bon mois. Ce qui fait que si ce virus ne change pas, n'évolue pas trop, et qu'on a effectivement une période d'incubation de 15 jours, eh bien, on va voir que le mois de février, certes, il va être extrêmement faible en Chine, mais en réalité, ce n'est pas complètement une surprise pour des entrepreneurs chinois qui savent s'adapter. Et c'est par exemple le message qu'on a eu de Bernard Arnault la semaine dernière, qui a dit, moi, LVMH, qui vend beaucoup en Chine, je m'attends à un impact sur mes ventes du premier trimestre, mais pas au-delà.
Oui, mais justement, c'est le pas au-delà qui peut être inquiétant ou pas.
Mais c'est pour ça qu'à mon sens, le vrai message de ce virus, il n'est pas vraiment financier. Savoir est-ce que vos ventes vont être
atteintes
de 1, 2, 3.
C'est l'atelier du monde, hein, la Chine. Donc, si vous voulez, si la Chine est à l'arrêt, je veux dire, toute l'économie mondiale est à l'arrêt. Enfin, pas toute, mais une grande partie. Mais
c'est ça qui est beaucoup plus intéressant quand vous êtes un investisseur, c'est qu'on est dans un cycle de 10 ans de hausse. On sait qu'un cycle, normalement, c'est 7 à 8 ans. Donc, on sait que les deux dernières années, on a tiré sur la corde, sur la demande, de par les banques centrales. Et on est devenu très complaisant en disant il n'y a plus de cycle, parce que la demande, elle est là forcément. Et moi, je dis, les bons investisseurs, le conseil que je vous donne dans les 12 prochains mois, c'est d'arrêter de regarder la demande et de regarder l'offre. Mm-hmm. Parce que la contrainte qu'on va avoir dans notre cycle, elle va venir des goulots d'étranglement à la production. Et vous le voyez chez Boeing et Airbus. Vous voyez que Boeing ne sait plus faire un avion, mais ça ne profite pas à Airbus, parce qu'il ne peut pas faire un avion supplémentaire. Donc ce qu'on a fait dans les deux dernières années, c'est rajouter aux entreprises des contraintes de production en termes réglementaires, en termes tarifaires, en termes sanitaires, et c'est là que ça va chouer. Donc c'est ça, moi, ma première leçon à court terme de ce qui se passe de ce virus, c'est les contraintes sont à la production. Mmh. À plus long terme, ce qui m'intéresse, c'est que quand même, il ne faut pas nier l'ampleur, enfin on ne met pas en quarantaine l'ensemble de la population française, ça n'est jamais arrivé depuis 1949. Donc le gouvernement chinois prend un énorme risque. Et quand vous êtes en Chine, il y a une tradition, c'est que toute grande catastrophe naturelle est un signe du ciel. Ouais. C'est un signe que l'empereur doit changer.
Ah.
Et donc, pour la population, il ne faut pas croire que les 50 millions de Chinois qui sont internés, ils sont heureux, ils hurlent sur Internet tous les matins. Et donc, en réalité, pour moi, le vrai signe de ce virus, c'est que on va fermer une croissance chinoise des 10 dernières années qui était complètement déséquilibrée. Et il faut qu'on en reconstruise une. Donc il faut que la... En fait, le vrai virus en Chine, c'est le virus de la réforme. Que les Chinois ont depuis 40 ans. Tous les 10 ans, ils vont dans le mur. Tous les 10 ans, ils se réforment. Et la grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les centaines de millions d'entrepreneurs privés qui ont ce virus de la réforme, est-ce que cette fois-ci, ça va marcher?
Est-ce qu'ils vont demander la tête de Xi Jinping? Parce que là, nous, on avait l'impression, avant cette épidémie, que c'était le nouveau Mao, le Mao du 21e siècle, avec tous les pouvoirs.
Et bien, c'est tout le défi. C'est-à-dire que quand vous regardez...
Vous allez jusque-là, David Barrès.
Mais oui, parce que quand vous regardez les 10 dernières années, la croissance chinoise, c'est quoi? C'est de la dette, c'est de la technologie américaine que je m'approprie de manière plus ou moins légale, et c'est une révolution digitale, mais seulement sur les téléphones portables. Donc, qui a touché, en fait, une petite partie de l'économie. Vous êtes chez vous, les médias, le commerce, et puis le tourisme. Mais le reste n'a pas été atteint.
Les compagnies aériennes.
Oui, le tourisme. Le tourisme.
Oui, tourisme. Ah, si vous
mais les 10 prochaines années, c'est quoi? Ben, il nous faut de la technologie chinoise pour faire de la productivité et pour que cette révolution Internet, elle touche la finance, elle touche la santé, là, y compris le traitement des virus, les produits manufacturés et la recherche et développement. Donc, vous voyez que la grande question, c'est est-ce que la Chine va se refermer? Donc, par exemple, au mois de décembre, ce qui pour moi est peut-être plus important que le virus, le gouvernement chinois a dit les sociétés étatiques n'ont plus le droit d'avoir des logiciels étrangers. Bon, ben si c'est le cas, c'est 1850 où la Chine se referme, et là, ça va pas marcher. Si au contraire, je vous invite à regarder au cours des prochaines semaines ou peut-être prochains mois, ça va peut-être, vous avez deux entreprises chinoises qu'il va falloir regarder de très près, ce sont deux introductions en bourse à Hong Kong. La première, elle s'appelle, alors je suis désolé parce que les auditeurs sans doute ne sont pas très familiers, Ant Financial Services. C'est la filiale.
Et pourquoi c'est clé, oui.
Ben parce que c'est la filiale d'Alibaba qui fait des services financiers. Elle vient, on nous l'annonce à 150 milliards de dollars de valorisation. C'est deux fois la BNP, qui est la plus grosse banque de la zone euro. Qu'est-ce qu'a fait cette société? Elle a réinventé les systèmes de paiement. Elle nous permet de payer à partir de notre téléphone, mais au lieu, vous et moi, quand on est ici à Paris, on utilise notre carte de crédit, ça nous coûte entre 2,5 et 5% de la transaction. Les Chinois le font pour entre un cinquième et un dixième du prix. Donc là, c'est ce que je vous décris, c'est la technologie chinoise qui fait que je vais réformer. On ne fait pas en Chine de la fintech, comme chez nous, on fait de la techfin, c'est-à-dire qu'on invente une nouvelle finance à partir de la technologie.
La deuxième?
Et la deuxième, elle s'appelle ByteDance. C'est celle qui a... Vous êtes familière de TikTok?
Oui. Enfin, je sais ce que c'est. Pas familière.
Oui,
enfin,
TikTok, c'est pour les ados de 15 ans. Donc, vous êtes parfaitement dans la cible.
Merci.
Et cette société a réinventé un mode de communication pour la génération Z, qui sont des vidéos de 10 à 15 secondes.
Oui. Mais donc, là aussi, pourquoi c'est clé?
Ben, c'est clé parce que cette société a pris 20% du marché de la pub digitale en Chine en 2 ans. Donc imaginez, chez BFM, que vous ayez un concurrent qui arrive et qui vous pique 20% de votre publicité en 2 ans.
Mais en même temps, ça veut dire quand même, vous êtes dans l'hypothèse en disant que c'est beaucoup plus important que le coronavirus. À condition que l'épidémie, elle se termine dans les 15 jours ou dans les 2 mois.
Absolument.
Parce que et donc, si ça dure 6 mois, tout ce que vous nous dites, à mon avis, il y aura vraiment autre chose.
Absolument. Et c'est pas moi qu'il faut interroger, parce que ça, c'est un problème de médecin. Et je ne suis pas médecin.
Oui, mais les conséquences. Mais moi, j'ai une question, pardon, parce qu'il nous reste peu de temps. Sur Hong Kong, il y avait la rébellion. On a vu la difficulté qu'avait justement à contrôler la Chine. Donc, on en était à un point d'exaspération énorme. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, on a fermé les frontières. Avec ce qu'on appelle la Chine continentale. Mais ça a été sous la pression des nurses des hôpitaux qui ont mis une pression d'opinion publique auprès du gouvernement, parce qu'au début, le gouvernement de Hong Kong, naturellement, était réticent. Et donc, vous voyez qu'il y a encore un pouvoir de l'opinion publique à Hong Kong et que, contrairement à ce qu'on peut croire, la démocratie n'est pas entièrement morte.
Oui, d'accord. Encore une question sur cette épidémie. On a vu qu'il y a un bateau japonais avec 3700 participants, croisiéristes à bord, donc certains sont contaminés, donc ils sont confinés sur ce paquebot. Il y a les Jeux Olympiques, bientôt maintenant, c'est dans 6 mois à peine. Là, ça peut avoir un véritable impact, non, sur les Japonais?
Oui, mais vous voyez bien que les mesures qui sont prises par les gouvernements sont sans précédent. Je vous rappelle,
oui, mais
la population française confinée comme ça, ça n'est jamais arrivé depuis 1949. Donc, on voit bien. Et c'est pour ça que j'ai confiance, moi. C'est que je n'aurais pas confiance si on était dans le déni. Mais là, et c'est ce que j'essaye de vous expliquer, ce monde à l'envers, c'est que le mensonge de 2003, ça n'est pas un problème. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ça n'est plus possible. Et c'est pour ça qu'on a progressé.
Oui. Toute dernière question, effectivement, on me le rappelle. Sur Huawei, vous avez vu la défiance des Européens. Vodafone qui a décidé, de, alors qu'il travaille avec Huawei, d'exclure justement de ses cœurs de métier la 5G, le débat en France. Est-ce qu'il faut avoir peur de Huawei ?
Ben, il faut surtout apporter une réponse non pas politique, mais technique, technologique. Mmh. Et l'ANSSI, en France, va faire le boulot, donc on doit pouvoir se protéger.
Voilà, et ben moi c'est une réponse claire et précise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, essayiste. Et puis quand même, je rappelle, Paris-Pékin Express, vous avez beaucoup de succès, donc à suivre. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, c'est un jeune essayiste, un jeune philosophe intellectuel qui sera avec nous, Fergana Aziari, il est délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Surtout, c'est un libéral, il le revendique. Ben, je lui demanderai un peu de décrypter ce qu'il pense, par exemple, du Brexit ou de la réforme des retraites. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Un invité nouveau dans l'heure H, c'est un essayiste, on peut dire ça comme ça, un intellectuel. Fergana Aziari, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. En fait, vous, ce que vous cherchez à faire, vous êtes... Gaspard Koenig de Génération Libre qu'on connaît bien ici, c'est simple, vous êtes encore plus libéral que Gaston Koenig, donc vous allez nous dire pourquoi. Et puis surtout l'Académie des sciences humaines, libre des sciences humaines, j'ai vu vous défendez la cause libérale au sein de la sphère académique. C'est ça, grosso modo ?
Tout à fait. En fait, on part du principe que la France, aujourd'hui, on part du constat, pardon, que la France est l'un des pays les plus illibéraux du monde développé. Et on pense que cet illibéralisme culturel, il a des origines intellectuelles, académiques et universitaires assez profondes. C'est-à-dire que notre élite intellectuelle en France se définit quand même par un certain degré d'antilibéralisme, d'anticapitalisme. Et donc, la mission modeste donc, de l'Académie libre des sciences humaines, c'est de réinsuffler une tradition libérale académique au sein du monde universitaire pour tenter de changer la mentalité des influenceurs, pour le dire assez rapidement.
Alors, on vous retrouve souvent chez nos confrères du Point, du Figaro, de Valeurs Actuelles, parce que vous êtes aussi à l'IREF, hein, donc qui est un institut libéral, là encore. J'ai envie de dire, il faut déjà apprendre aux Français l'économie. Hein, lorsqu'on voit le niveau, je ne sais pas si vous avez suivi, là, il y avait le niveau d'économie des jeunes qui sortent de l'ENA, il y avait de quoi un peu frémir.
Oui, c'est vrai que la culture économique française est très imprégnée d'une forme de colbertisme, de dirigisme. C'est assez triste que 30 ans après la chute du mur de Berlin, la France soit l'un des rares pays qui peine à reconnaître les vertus de l'économie de marché. Donc c'est aussi sur le terrain de l'enseignement de l'économie que l'on se place, même si à mon avis il ne faut pas tout attribuer à l'inculture économique. Je pense qu'il y a aussi des préjugés moraux, éthique, une méconnaissance de l'histoire, une idéalisation de l'action gouvernementale, des tas de facteurs intellectuels et sociologiques qui aujourd'hui font qu'on peine à reconnaître que le modèle libéral, eh bien, soit tout simplement le modèle le plus, celui qui a le plus réussi ces deux derniers siècles à sortir les gens de la pauvreté.
En quoi a-t-il réussi ? Alors ça dépend où est-ce qu'on met la barre. Hein, pour vous, la mondialisation, vous dites par exemple, il y a des questions, il y a des gens qui disent la mondialisation, en fait, elle a profité qu'à 1% des plus riches de la planète. Vous dites pas du tout, la mondialisation, elle a permis à des millions, des centaines de millions, voire des milliards de gens de sortir de la pauvreté. Il faut même aller plus loin.
Mais tout à fait, il faut quand même...
Ça s'appelle être à contre-courant. Hein,
c'est être à contre-courant, malheureusement, mais si on est attaché à un examen honnête du bilan humanitaire du capitalisme mondialisé, force est de constater que l'humanité, aujourd'hui, connaît l'ère la plus prospère et la plus pacifique de son existence, de toute son histoire. C'est-à-dire que la pauvreté est à son plus bas historique, la mortalité infantile recule partout dans le monde, l'espérance de vie augmente, 1 milliard d'êtres humains ont été sortis de la misère en Asie ces dernières décennies, à tel point qu'aujourd'hui, les pays les plus favorables au libre-échange se trouvent dans les pays asiatiques. C'est le Vietnam, quand on fait les sondages internationaux, on se rend compte que les opinions publiques les plus favorables à la libéralisation
du commerce... Oui, mais parce qu'ils viennent d'années de communisme, hein, donc c'est peut-être là aussi, si vous voulez, parce que sinon, il n'y a plus tellement de pays libéraux aujourd'hui. Le libéralisme, vous avez Alain Madelin qui est là souvent, mais c'est tout, sinon il n'y a plus tellement de libéraux.
Je pense que c'est une exception française. Ceci dit, quand on regarde en Europe, on a quand même à côté la Suisse qui est un des pays les plus libéraux du monde. On a des pays comme Hong Kong, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, qui sont toujours des pays très libéraux. La France, en effet, fait partie de ces pays qui, malheureusement, est encore un peu trop ingrate à l'égard de l'économie de marché et du capitalisme mondialisé.
Ah, c'est pas la même chose, l'économie de marché, c'est pas forcément l'économie libérale. Hein.
L'économie de marché, c'est quand même l'économie qui repose sur la libre interaction, le libre jeu de l'offre et de la demande, des interactions volontaires, contractuelles. C'est donc une déclinaison institutionnelle des principes du libéralisme économique fondé sur la liberté d'entreprendre, le droit de propriété. Donc si il y a une interconnexion assez étroite entre les principes du libéralisme et l'économie de marché, justement.
Alors on va prendre un exemple, hein, parce qu'on va prendre le Brexit, parce que j'ai lu certains de vos papiers, c'est comme ça que ça m'intéressait de vous recevoir. Sur le Brexit, vous dites, mais à la limite, entre le Brexit et l'Union Européenne, qu'est-ce qu'il faut négocier, pas négocier, dans quelles conditions, est-ce qu'il faut avoir une position dure, est-ce que les Britanniques qui sortent de l'Union douanière devront respecter les normes sociales, les normes européennes, quoi, les normes écolo, et bien vous dites, Alit, il faut que tout le monde soit dans le libre-échange. Donc, aussi bien le Brexit, mais aussi bien l'Union européenne.
Tout à fait. Alors, moi, je suis déjà assez admiratif de la mentalité britannique, parce que l'euroscepticisme britannique, il diffère quand même de l'euroscepticisme français. Entre les deux, c'est le jour et la nuit. L'euroscepticisme français, on le sait, est teinté d'un anticapitalisme revanchard et d'une hostilité de principe contre la mondialisation, là où les Britanniques sont beaucoup plus lucides, je crois, que les Français sur ce qu'ils doivent au commerce international, à tel point que toute la tragicomédie autour d'un Brexit sans accord sous les gouvernements successifs de Theresa May et Boris Johnson était fondée sur la crainte légitime qu'une isolation, qu'une fermeture du commerce serait préjudiciable pour l'économie britannique. Donc on a effectivement un peuple qui est beaucoup plus favorable au libre-échange que les Français. Là où je pense qu'ils se trompent de stratégie, c'est que aujourd'hui, on est obsédé par le multilatéralisme et on pense que le libre-échange n'est soluble que dans des accords internationaux. Or, et les Britanniques le savent très bien, le libre-échange, c'est avant tout une question locale et unilatérale. C'est-à-dire
ça veut dire quoi ? Par exemple, là, vous dites, à la limite, il faut aucun accord, et puis on négocie avec le pays qui est le plus... à qui on achète ses avions, à qui on achète ceci.
Je pense que les Britanniques devraient singer le modèle singapourien. C'est quelque chose qui est assez discuté au Royaume-Uni. Singapour n'a pas attendu un consensus mondial pour se doter d'un port franc et pour être une place commerciale.
Mais
il n'empêche qu'il y a un secteur tertiaire, une économie financière très développée.
Oui, de services.
C'est-à-dire une économie de services qui est tout aussi productive. Il y en a quand même, Singapour, c'est l'une des places les plus prospères de la planète. Donc je pense que les Britanniques devraient singer ce modèle-là et qu'ils ne devraient pas attendre que l'Union européenne accepte un accord parce qu'il y a une divergence fondamentale entre les intérêts des Britanniques et l'intérêt de l'Union européenne. L'Union européenne aspire à être une puissance normative, c'est-à-dire un empire réglementaire capable d'imposer ses normes dans la mondialisation.
Notamment sociale, oui.
Là où les Britanniques, précisément, voulaient retrouver une forme d'indépendance juridique vis-à-vis de Bruxelles.
Oui.
Or, si les Britanniques s'entêtent à négocier avec l'Union européenne, ils seront forcés...
Il y a les moitiés de leurs débouchés, peut avoir plus, qui sont vers l'Union européenne. Hein, donc,
bien sûr, mais rien n'oblige...
Si ce coup de l'Union, rien les oblige. Mais simplement, c'est un choix qu'ils peuvent faire.
Mais rien n'oblige le Royaume-Uni d'adopter les normes européennes. Effectivement, les
exportateurs... S'ils veulent négocier avec nous aussi.
Les exportateurs...
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez, c'est ça la question.
Mais justement, ce que les libre-échanges radicaux vous disent, c'est qu'aujourd'hui, une uniformisation réglementaire n'est pas le préalable pour un libre-échange de qualité. Pendant très longtemps, l'intégration économique européenne était fondée sur ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes. C'est-à-dire que chaque État a sa propre législation, sa propre réglementation, mais cela ne constitue pas un prétexte pour entraver la circulation des marchandises. C'est-à-dire que c'est au consommateur, in fine, de choisir la marchandise qu'il veut acheter en fonction des normes selon lesquelles elle a été confectionnée. Le gouvernement de Theresa May était tout à fait ouvert à l'idée d'un accord de reconnaissance mutuelle des normes, mais l'Union européenne a refusé cette possibilité parce qu'elle voulait absolument exporter son arsenal législatif réglementaire à des fins protectionniste, alors que ce n'est aucunement un prérequis nécessaire pour l'ouverture du commerce.
Comment vous expliquez qu'il y a un peu le pays qui était... C'est vrai qu'il y avait la Grande-Bretagne, mais il y a les États-Unis, je dirais, qui est un peu le nœud du capitalisme libéral, avec la réussite américaine. Comment vous expliquez que ce pays soit devenu le pays aussi protectionniste, et puis visiblement s'apprête à réélire Donald Trump ? Comment est-ce que vous expliquez ça ? Ça veut dire quand même que les peuples, ils ont volé, ou peut-être qu'ils ont souffert de cette mondialisation que vous appelez de vos voeux ?
Je ne pense pas qu'ils ont souffert aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les chiffres, les standards, les niveaux de vie, y compris dans les pays développés, les Américains, les Européens n'ont jamais été aussi riches qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Mais pas le white collar, justement dans...
Je ne pense pas que ce récit soit vrai. Quand on regarde, d'accord, par exemple, un indicateur qui est assez intéressant, c'est le temps de travail nécessaire à la satisfaction de nos besoins. Ouais. Bon, au 19e siècle, il fallait travailler 3000 heures pour souffrir le niveau de vie du 19e siècle. Aujourd'hui, dans toutes les démocraties occidentales, on travaille environ 1500 heures pour souffrir le niveau de vie du 21e siècle, qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu. Donc on a connu effectivement un enrichissement spectaculaire des masses à travers le monde. Maintenant, effectivement, cet enrichissement n'est pas un vecteur automatique d'acculturation en vertu du libéralisme, et ça un intellectuel comme Joseph Schumpeter l'avait constaté, c'est-à-dire qu'il pouvait constater que les masses pouvaient se montrer très ingrates à l'égard du système qui les a sortis de la pauvreté, parce que l'embourgeoisement crée aussi une forme d'insatisfaction et des ressentiments envieux contre le capitalisme que la richesse ne suffit pas à juguler. Et c'est un combat culturel qu'il faut mener pour que les populations réalisent à quel point le système...
Oui, pour vous, c'est un vrai combat culturel.
C'est un combat culturel et intellectuel, en effet, qu'il faut mener contre toutes les rétrotopies, si on... qui voudrait qu'on aurait connu une espèce de passé radieux, fantasmatique, le fameux « c'était mieux avant ». Quand on regarde l'histoire de la condition humaine ces dernières décennies, je pense que l'amélioration ne fait aucun doute et il faut, je crois, être de mauvaise foi pour le nier.
Fergan Azihari, la réforme des retraites, la réforme systémique, comme on dit, la réforme à points, on va en parler puisque je reçois aussi dans le RH Laurent Escure, le patron de l'UNSA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que je veux dire, le principe est assez simple. Après, l'application, on voit bien que c'est très, très, très compliqué. Mais le principe est assez simple. Est-ce qu'il vous séduit ?
Alors, je pense que cette réforme est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire que on sanctifie un système de retraite par répartition. Or, on le sait très bien, avec les dynamiques démographiques actuelles, un système de retraite par répartition est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on est condamné soit à augmenter la durée de cotisation, soit à alourdir les cotisations, soit à baisser le niveau des pensions, voire les trois solutions à la fois. Et donc, la seule manière de sortir de cette impasse, ce serait d'introduire de la capitalisation, donc un système d'épargne-retraite. Le problème aujourd'hui, c'est que la capitalisation se heurte à une opposition intellectuelle et idéologique très forte, notamment de la part de la gauche. Une opposition qui n'est pas dénuée de paradoxes et de schizophrénie, puisqu'on vit dans un pays où la gauche ne cesse de nous dire que les actionnaires se gavent, s'enrichissent en dormant, pour reprendre la formule de François Mitterrand, et pourtant on refuse de faire de la France un pays d'actionnaires. On a quand même un Thomas Piketty qui a acquis la célébrité mondiale en nous expliquant que le capital bénéficiait d'un rendement outrancier. Alors si ces gens étaient vraiment cohérents, ils devraient être en première ligne pour défendre l'ouverture à tous, la capitalisation. Cette incohérence est quand même assez remarquable.
Et Thomas Piketty qui était pour la réforme à points, même si aujourd'hui il ne l'est plus tellement. Merci beaucoup, La Voix Libérale, ça y est, on l'a trouvé. Merci Fergan Azihari d'avoir été avec nous. Je rappelle donc délégué général de cette Académie libre des sciences humaines. On peut vous suivre évidemment sur Twitter, vous êtes très présent, et toutes les publications que vous signez chez nos confrères de la presse écrite. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est mon avis pas complètement d'accord avec vous, c'est Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un des personnages clés de cette réforme des retraites, Laurent Escure. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de venir ici. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA. L'UNSA qui est devenue aussi un peu le partenaire indispensable, hein, je disais. On va revenir sur cette réforme des retraites, bien sûr, l'étude d'impact et puis ces conférences de financement auxquelles vous participez, sachant qu'il y a des réunions les mardis et le jeudi, mais ça sera à partir du 17 février. Hein. Donc c'est dire si c'est important. En même temps, parallèlement, il y aura le texte en hémicycle. Donc compliqué. Deux, trois petites questions d'actualité. D'abord, tiens, qu'est-ce que ça vous inspire, le départ d'Isabelle Kocher? Est-ce qu'il y a du sexisme dans le CAC 40, tous ces poids lourds industriels?
Disons que quand il n'y a qu'une seule femme qui est à la tête d'une entreprise du CAC 40 et qu'elle s'en va, ça se voit tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de boulot pour que les femmes aient les postes de responsabilité qu'elles méritent. Si elles sont l'égale des hommes, il faut qu'on ait une parité. Alors, je balaye aussi devant notre porte, hein, dans le syndicalisme
interprofessionnel,
il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais si on veut que des femmes aient...
Surtout à l'UNSA, du reste.
Et des lourdes responsabilités. Alors, dans mon équipe, moi, on est paritaire. Public-privé, femmes-hommes.
Mais quand on regarde en tête de gondole, comme on dit chez nous...
On a de tout. Hein. On a plus deux secrétaires générales adjointes, deux secrétaires généraux adjoints, et on a sept femmes, sept hommes dans l'équipe. Mais j'avoue qu'on doit balayer aussi devant notre porte. C'est un vrai sujet de société. Les femmes ont autant de compétences que les hommes, et donc on doit les retrouver à tous les postes de responsabilité.
Oui, je pensais à ça en vous envoyant une petite pique, parce que je pensais à l'UNSA Cheminot. Vous avez vu la déclaration de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui dit qu'elle veut libéraliser les trains de banlieue, donc la RER, TER, voire métro, les privatiser, ouverture à la concurrence pour que ça bouge.
Il y a une ouverture à la concurrence qui était programmée. Maintenant, on va regarder de très près l'impact et le bénéfice que ça peut avoir sur, et notamment en Île-de-France, sur les franciliens. Parce qu'on voit en Angleterre que sur ce sujet très précis, et pourtant Boris Johnson n'est pas un chantre de l'étatisation ou des démarches planifiées, et pourtant il revient sur la libéralisation des chemins de fer, parce que les performances ne sont pas là et le service rendu et attendu n'est pas là non plus.
Donc là, vous êtes plutôt assez circonspect par rapport à la décision, l'annonce en tous les cas de Valérie Pécresse.
On verra quelles sont les suites. Ce qui m'inquiète plus, c'est les salariés du rail, parce qu'on a négocié une très belle convention collective avec les patrons de l'ensemble des entreprises qu'on a signées. Et on voit que la CGT leur refuse, qui risque de bloquer, ce qui risque de ramener les salariés du rail hors SNCF au simple code du travail, ce qui serait quand même une faute, et ce qui risque de faire que les salariés de la SNCF, soient d'une certaine façon en concurrence déloyale. Donc il y a double faute là sur ce sujet.
Oui, ça c'est important, cette convention des cheminots, parce qu'on l'attendait, c'était dans le cadre justement de la loi de la SNCF, là, qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020. Donc cette convention, finalement, vous avez réussi à discuter. Elle était là, il n'y a que vous qui l'avez signée.
On est deux organisations à l'avoir signée, donc l'accord est valable, sauf s'il est dénoncé par une majorité de syndicats. Donc la CGT l'a dénoncé, il reste encore une organisation syndicale à se prononcer, mais si ces organisations rejettent cet accord, on va se retrouver dans la double faute dont je viens de parler.
Ouais. Et là, la CGT, elle ne veut rien entendre.
Je ne me prononce pas sur sa stratégie, mais les salariés la jugeront.
Ouais. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi sur le service minimum? En tous les cas, là encore, Valérie Pécresse, elle demande un plan B, quoi. Parce que pour éviter tout ce qu'on vient de subir.
Non, mais je comprends. C'est-à-dire, quand il y a des conflits sociaux, il y a des empêchements, il y a des désagréments. Il faut se dire que dans ce conflit social, régulièrement, on avait des métros aux heures de pointe, le matin et le soir. Je ne suis pas sûr qu'un service minimum fasse beaucoup mieux que ce qu'on a eu malgré l'ampleur du mouvement social.
Vous avez entendu comme moi le résultat du baromètre Odoxa, où on voit quand même que donc plus 7 points pour le moral économique, donc ça veut dire que ça marche plutôt bien, puis en même temps ce doute quand même par rapport à la politique économique conduite par le président. Donc je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus.
Oui, je vois qu'il y a des performances économiques qui s'améliorent, le chômage baisse, le moral des ménages et leur consommation devraient s'en trouver impactés positivement. On est en France, hein. En France on a toujours l'habitude de regarder le verre à moitié vide plutôt que de le regarder à moitié plein.
Vous trouvez ça un peu injuste?
Mais Non, je trouve que la situation s'améliore, et c'est vrai,
oui.
Mais je trouve que peut-être le président de la République et son gouvernement ont perdu en lisibilité et en narration de leurs réformes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a à la fois des gens qui s'opposent à leur politique et d'autres qui doutent de leur efficacité.
Sur la réforme de l'apprentissage, parce que vous avez dit les chiffres du chômage sont bons, après il faut que ça se valide, hein, mois par mois, les chiffres de l'apprentissage sont bons. Alors il y a toute une petite polémique pour savoir si c'est la réforme de Muriel Pénicaud, si ce sont les régions qui sont... Mais bon, ça va... Vous dites bravo, ça va dans le bon sens.
Oui, ça va dans le bon sens parce que bon, peu importe qui en est responsable, puisque comme il y a plusieurs acteurs, en réalité, ils sont tous responsables et on est tous responsables. L'apprentissage peut être une vraie voie d'excellence pour former des jeunes à des métiers dont la France a besoin.
Et ça répond à un vrai besoin, exactement, de la part des entreprises. On le voit bien, puisqu'il y en a même plusieurs qui créent leur propre centre d'apprentissage.
Bien sûr, parce que on voit bien que la France a du retard au niveau européen, y compris moi, pour défendre les salariés et donc l'emploi. On voit bien que le tissu des petites entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont souvent très dépendantes de main-d'œuvre qualifiée issue de l'apprentissage, c'est un tissu qui nous manque, qui n'est pas assez vivace. Et donc, je pense que ce regain de l'apprentissage et de ses résultats est une très bonne nouvelle.
Ouais. Est-ce que la réforme des retraites... Donc, alors là, l'étude d'impact... des économistes qui sont tous plutôt de gauche, du reste, qui sont tous prononcés pour expliquer qu'on ne comprenait rien à cette étude d'impact, du moins qu'elle n'éclairait pas sur cette réforme des retraites. Et puis la conférence de financement, donc vous avez déjà eu une réunion, mais à partir du 17 février, on le disait, le mardi, ça sera sur les mesures d'équilibre, et le jeudi, ça sera sur la gouvernance, c'est ça ?
On va dire que la conférence de financement peut être la session de rattrapage de l'étude d'impact. C'était pas pour ça qu'elle a été faite, mais c'est ce qui va se passer, parce que nous, on va demander en premier lieu, je sais que les employeurs sont aussi sur cette position, qu'on refasse justement une étude d'impact sur les avancées qu'on a obtenues, les garanties qu'on a obtenues, leur impact financier sur la transition entre 2022 et 2027, puis 2037. Donc on va demander d'abord à avoir tous les chiffres sur la table, à les croiser avec des expertises croisées pour savoir quel est le besoin de financement.
C'est expertise la première étape. Expertise de la part de qui ?
Expertise d'abord des experts indépendants qui peuvent nous éclairer.
Oui.
Chacun d'entre nous, on amènera notre propre étude, puisqu'on se fait aider pour avoir une vision sur ces questions-là. Moi, je rentre dans cette conférence avec un peu d'optimisme, parce que je crois que si on veut crédibiliser la démarche du compromis tripartite entre les pouvoirs publics, les employeurs et les représentants des salariés, on a un intérêt à faire que cette conférence soit réussie, à la fois pour que les salariés ne soient pas les seuls à être pénalisés par des besoins de financement, parce que c'est le cas de toutes les réformes précédentes, et à la fois pour montrer que le gouvernement, les employeurs et les syndicats peuvent se mettre d'accord. Je pense qu'il y a un enjeu très fort là-dessus.
Est-ce que cette étude que vous allez chacun mener de votre part, est-ce que ça peut conduire d'abord, est-ce qu'il y a un simulateur qui va sortir, vous savez, ou pas?
Parce que... Non, j'en sais rien. La première chose, c'est qu'on se mette d'accord pour qu'on ait des chiffres communs. Si on veut trouver des solutions...
Parce que dans l'étude d'impact, on voit qu'il y a des cas, qui sont présentés.
Oui.
Et certains disent, bon, ça n'a aucun sens parce qu'on ne sait pas encore toutes les hypothèses.
C'est ça, il manque un certain nombre d'arbitrages pour calculer, pour regarder évidemment l'impact. Alors l'impact à long terme, il m'intéresse un peu moins. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais l'impact à long terme, là-dessus, le Conseil d'État est sage en conseillant au gouvernement de dire la gouvernance sera peut-être la mieux placée, puisque c'est dans très longtemps, pour conduire l'équilibre à long terme du système. En revanche, la conférence peut dresser des hypothèses, des scénarios qui permettent ensuite à la gouvernance de travailler correctement. Là, l'enjeu, le dur du sujet, c'est l'équilibre à court terme. Et pour y arriver, il faut que d'abord, on se mette d'accord, avant de se mettre d'accord sur comment, sur combien on a besoin d'argent pour équilibrer.
Je sais pas, le chiffre de 12 milliards vous paraît ça ?
Il existe, mais il faut regarder. C'est-à-dire que pour des raisons différentes, nous, on voit, le MEDEF peut dire... et nous on en est fiers, il va y avoir un coût supplémentaire parce qu'on va aider les petits retraités, ceux qui ont eu une carrière au SMIC. Ça va commencer dès 2022, donc ça a un coût. Donc ils ont raison de le pointer, mais nous on est contents que cette mesure soit là. Et nous de l'autre côté, on dit assez vite, il va y avoir des hauts salaires qui vont être au-dessus de 10 000 euros, qui vont être exonérés d'une grande part de leur cotisation.
Bah oui, parce qu'ils n'ont pas de droit à la retraite.
Et des cotisations patronales qui vont avec. Donc il me semble qu'on ne peut pas avoir un système, on parle beaucoup souvent de bonus-malus, il ne peut pas y avoir le malus que pour les salariés.
Là, c'est un malus pour les hauts cadres, justement, c'est les victimes.
Bah, eux, non, puisqu'ils cotisent, ils cotisent plus, ils cotisent 2,8%.
Oui, bah, c'est surtout qu'ils n'ont plus de droits solidarité. Ouverts
oui, mais
à la
ils peuvent en créer d'une autre façon, et ça les regarde. Et franchement, ils sont pas très nombreux, et je suis très content.
Non,
et je suis très content pour tous ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois dans ce pays. Je pense que, à l'image de quelques milliardaires américains qui considèrent qu'ils pourraient,
mais ça n'a rien à voir entre un milliardaire et quelqu'un qui gagne 10 000 euros, non ? Enfin,
ils considèrent qu'on peut payer de la solidarité. Je pense qu'au-dessus de 10 000 euros, on peut contribuer à la solidarité, et autrement que par une œuvre caritative. Je pense que la cotisation est une contribution, et je pense aux salariés, mais surtout, je pense aussi au patronat, parce que le patronat fait une sacrée économie avec...
Voilà, moi j'ai envie de dire, le patronat, les chefs d'entreprise, ils font une économie. On l'a chiffré de 2 à 4 milliards.
Oui, c'est ça, donc il faut qu'on regarde comment on le réintègre.
Et les Léocard, par contre, ils sont pénalisés, c'est clair.
Bah, ils sont pénalisés. Ils ont un régime à hauteur de 3 plafonds de la sécurité sociale, donc à hauteur de 10 000 euros. Donc ça leur fait une retraite qui sera quand même très correcte. Et ils peuvent, et ils le font déjà, trouver d'autres investissements pour préparer leur fin de carrière. C'est-à-dire, je pense que franchement, la masse des salariés, qui sont les 25 millions de salariés ou indépendants, hein, qui ont des petits revenus tous les mois, ne les regarde pas. En se disant qu'on va les plaindre, quoi.
Non, mais ça, je suis d'accord, mais à la limite, on évite de tomber là-dedans, en termes de compétitivité pour attirer des hauts cadres, c'est sûr que c'est pas terrible pour les entreprises françaises.
Oui,
voilà,
mais
c'est ça que je veux dire.
Ben, pour l'instant, c'est l'inverse qui va se produire, puisqu'il y aura des cotisations patronales en moins.
Ah non, oui, mais il y aura des droits à la retraite en moins.
Oui, mais pour...
Du côté des cadres.
Oui,
non, mais du côté des entreprises, je vois très bien votre raisonnement. Mais du côté des cadres, ils vont se dire, bah, les entreprises françaises, bah non, je perds.
Cette masse d'argent qu'ils libèrent, parce qu'ils devaient 16, 17, 18, 20% selon les cas de cotisation, ils en sont à 2,8. Même si on montait leur cotisation de contribution de solidarité à 4 ou 5%, il leur resterait quand même de l'argent qu'avant, ils investissaient dans un système de retraite qu'ils peuvent investir autrement.
Voilà. D'accord. Du point de vue des entreprises, absolument. Vous avez... Donc ça, c'est un point pour vous. En même temps, j'ai reçu, vous me direz, chacun est dans sa posture. Hein. Geoffroy Roux de Bézieux, Patrick Martin, François Asselin, ils disent tous pas de hausse de cotisation.
C'est normal qu'au début d'une conférence de
financement... Ligne rouge.
Non, alors, j'aime pas le mot ligne rouge. Parce que quand on a des lignes rouges de part et d'autre de la table, on n'a pas de compromis possible.
Ouais.
Mais que chacun dise ses exigences et ses préférences, ça a du sens.
Mm-hmm.
Donc je comprends qu'à cette étape, ils disent ça. Mais si on veut montrer qu'on est capable d'avoir un dialogue social qui soit à la fois respectueux du contrat social, de la justice sociale d'un côté et des performances économiques de l'autre, il faudra que chacun bouge, y compris eux.
Ouais, d'accord. Comme ça, c'est... La question de la CRDS.
Nous...
François Asselin, il a dit là, à ce micro-là, mardi, il me dit on n'y touche pas, il y a la question de la dépendance qui va bien finir par arriver.
Non, mais nous, on dit à peu près la même chose,
d'accord.
Nuance près, c'est-à-dire qu'on dit en effet, il faut que ça serve la dépendance, parce que c'est un vrai besoin dans notre pays, mais sur les 7 à 9 milliards, il faut l'évaluer, parce que c'est cette fourchette-là, on pourrait prendre 4 ou 500 millions, ce qui pourrait payer quelque chose dans les dispositifs de retraite. C'est-à-dire la grande masse s'en servir pour la dépendance, mais en prendre un petit morceau, ça peut contribuer au cocktail de mesures nécessaires à l'équilibre.
Maintenant, la mesure qui fâche, la mesure d'âge, c'est peut-être celle qui fait bouger le curseur financier d'une manière la plus significative possible. La mesure d'âge, comment est-ce que, je ne sais pas, à l'UNSA, comment vous abordez cette question-là ?
Alors, pas positivement a priori, évidemment, ni même a posteriori. Ce qu'on dit, c'est que les salariés ont toujours payé avec des mesures d'âge ces dernières années. Ça, on le constate. Et aujourd'hui, les questions d'âge du taux plein et d'âge d'équilibre, ils existent déjà, puisque chacun, en projetant sa retraite, même ceux qui ne seront pas concernés par la réforme, ils additionnent le nombre d'années qu'ils doivent faire à l'âge d'entrée sur le marché du travail, pour le faire simple, et donc on voit s'ils peuvent partir à taux plein, à 63, 64, 65, 66. Donc ces questions-là existent déjà. La question, c'est d'avoir une mesure dans un système à points où les gens qui n'ont pas cotisé pendant une, deux, trois ou quatre années sont déjà punis parce qu'ils n'ont pas cotisé, donc ils n'auront pas de droit pour constituer une retraite de qualité. Donc, est-ce qu'il est utile de rajouter une double peine avec un deuxième marqueur d'âge, ou est-ce qu'on peut faire autrement ? Ça, c'est pour le futur système, et ça, la gouvernance sera bien placée pour le faire à court terme, pour le faire dans les années qui viennent. En revanche, pour le court terme, il faudra qu'on regarde et qu'on dépoussière. Est-ce que le dispositif Touraine Est suffisant.
Ouais. Est-ce qu'on passera à 43 annuités nécessaires.
Voilà. Est-ce que.
Il faut aller plus vite.
Est-ce que la démographie, en effet, va s'améliorer. Mm-hmm. Parce qu'à partir de 2030, elle s'améliore.
Ouais.
Donc ça ne sert à rien de prendre des grandes mesures structurelles.
Donc c'est la fin du baby boom.
Voilà.
Du baby boom, pardon.
Ça sert à rien.
Ça devient le papy boom.
Des grandes mesures structurelles qui engagent sur le très long terme alors qu'on a un mauvais moment à passer. Donc peut-être qu'on peut échapper à cette mesure d'âge. Ça sera le travail de la conférence. Nous, on pose des idées sur la table. Je pense que les autres syndicats ou les employeurs ou le gouvernement posera aussi des idées sur la table et peut-être que certaines de celles qu'ils auront posées seront bonnes.
CFDT, elle est sur un peu, vous êtes un peu sur les mêmes positions.
Je pense, oui, qu'on va défendre au mieux l'intérêt des salariés, parce que c'est notre mission. On est sensible à l'équilibre, je l'ai déjà dit à votre antenne, parce qu'on ne veut pas d'une banqueroute de notre système de retraite par répartition. Et s'il n'est pas équilibré durablement, on risque soit l'étatisation, soit la capitalisation, ce qu'on ne veut ni l'un ni l'autre.
Parce que vous avez déjà eu sur l'assurance chômage, hein, l'étatisation, on va le rappeler. Donc, ça, vous avez tout ça dans la tête, hein, derrière la tête. On est d'accord ?
Sur l'assurance chômage, on est un peu mieux protégé du scénario assurance chômage, grâce à la lettre du Premier ministre. Parce que le mot cocktail que j'avais inventé en décembre, qui a été repris par plusieurs, et j'en revendique pas la paternité. Hein.
Mais si,
le mot cocktail de mesures a été repris par le gouvernement. Donc on sait qu'à la fin de la conférence, il y a un compromis, tant mieux. Il n'y a pas de compromis. Le gouvernement a dit qu'il prendrait des décisions éclairées par les débats de la conférence et qu'il prendrait des mesures, c'est-à-dire des mesures au pluriel. Donc on sait qu'on ne reviendra pas à la case départ. Après, ne pas revenir à la case départ ne signifie pas que ça sera bien. Mais on a au moins cette certitude qu'on ne reviendra pas à la case départ.
Ouais. La question d'âge, en même temps, c'est vrai, quand on regarde, on essaie de rester le plus neutre possible, hein, mais quand on regarde un peu à l'étranger, on voit bien que tout le monde travaille plus. Donc, on peut rester longtemps l'exception française.
J'ai bien vu que ça ne m'avait pas échappé, y compris dans les pays du Sud où.
Oui, 65 ans, 67
moyenne,
ans.
Très,
ouais.
très, très haut, y compris en âge légal, et pas seulement en âge d'équilibre financier. Ça ne m'a pas échappé, mais ça doit être un choix plus individuel de savoir si on continue. Il y a des professions où les gens ont envie de travailler plus longtemps. Mais il y a tout un tas de professions où les gens sont cassés à partir de 50, 55 ans. Et donc, on ne peut pas avoir
une mesure... C'est la question de la pénibilité.
On ne peut pas avoir une mesure uniforme pour... Il faut qu'on pense dans ce pays à aménager les fins de carrière. Il peut y avoir des choses belles à construire, y compris pour des intérêts qui permettent l'équilibre financier, où on aurait des systèmes de pré-retraite, des systèmes où on est du cumul emploi-retraite, parce qu'on pourrait liquider sa retraite à 62 ans, et pour certains qui auraient le courage de travailler un peu à temps, à mi-temps, et rebonifier sa retraite un peu plus tard. On pourrait avoir un débat de société sur l'aménagement des fins de carrière entre la transition entre l'activité et le moment de la retraite.
Comment est-ce que vous trouvez que le débat s'en manche à l'Assemblée nationale, là, avec ces 22 000 amendements
C'est le débat politique qui est aussi politicien, parce que quand on a on a peu de lisibilité dans ce débat parlementaire pour l'instant. J'espère que ça va se clarifier, parce que il y a des lignes forces, à la fois celles du gouvernement, ça on les connaît, celle de la majorité qui est pas à l'abri d'accepter certaines des suggestions qu'on leur a faites, mais il y a celle des oppositions qui mérite d'être montrée aux Français et d'être montrée très concrètement, puisqu'on a vu d'un côté certains qui veulent pas du tout cette réforme et qui proposent des choses alternatives, quel que soit le bord politique. Ça serait bien que ce débat parlementaire éclaire les Français plutôt que de se retrouver avec une bataille de chiffonniers. Donc moi j'attends qu'on ait un débat parlementaire de bon niveau, mais j'en suis plus spectateur qu'acteur.
Vous dites... non, c'est parce que je recevais avec Célia de Lavergne, qui est donc vice-présidente de cette commission spéciale des retraites. Tiens, du reste, elle disait quelque chose sur le bonus-malus par rapport à l'âge d'équilibre. La question, c'est de savoir si c'est un malus définitif ou c'est un malus temporaire, comme ça existe actuellement dans le cadre de la réforme qui a été faite sur l'Agirc-Arrco.
Adaptation,
tout est possible.
Non, mais toute adaptation qui serait mieux que des mesures brutales sera bienvenue. Nous, on voudrait l'éviter. Mais il peut y avoir en effet des bonus-malus. Enfin, des malus provisoires ou dégressifs. Ça peut aussi.
Est-ce que c'est exister sur la table? Ça fait partie des hypothèses ou pas tellement?
Pas pour l'instant.
C'est ça, pas pour l'instant.
Le vrai travail de la conférence de financement, le premier round, ça sera se mettre d'accord sur les besoins et sur le chiffrage. Le deuxième sera de trouver des solutions. Ouais. Ça sera plutôt, je pense, en mars et en avril.
Je reviens sur cette question des besoins, parce que c'est important. On s'est tous dit, bon, le chiffrage, il est 12 milliards dans un premier temps. Hein, donc, il y a des contestations sur ce 12 milliards.
Il faut qu'on le revérifie.
Il faut qu'on le valide, mais vous, ce que nous avez dit tout à l'heure, Laurent Escure, mais est-ce que il y a des contestations?
On dit qu'entre 2022, pardon, et ouais. 2027, ouais. En cumulé, c'est 46 milliards, dont 12 en 2027, en année pleine 2027.
Bon. Ouais.
On a plusieurs solutions. On a le fonds de réserve de 33 milliards qui n'est pas captif, puisque dans le système par points, on n'en aura pas besoin. Avec ouais. la fabrication, qu'on peut utiliser pour cette période-là, pour partie. On a les contributions des maintiens dans l'emploi des seniors qui feront de la cotisation, et ça peut être vertueux, y compris pour les entreprises, en termes de passation de compétences fines pour les jeunes générations et de l'expérience pour les jeunes générations. Mmh. Donc il y a plein d'autres options qui peuvent permettre l'équilibre. On est en train de travailler à des simulations, nous, de notre côté, pour s'armer et affronter le débat qu'on aura dans la conférence. Donc, je pense qu'on n'est pas démunis d'hypothèses pour fabriquer ce cocktail, mais c'est la discussion. J'espère qu'elle sera sincère. J'espère qu'il n'y aura pas des lignes rouges qui deviendront des barricades érigées ouais. de part et d'autre, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
L'accord, il se fera sans la CGT.
Je pense qu'il y a deux types de syndicalisme aujourd'hui. Je critique pas ceux qui en ont un autre. Il y a ceux qui acceptent de travailler à des logiques de responsabilité, d'efficacité pour la défense des salariés et d'autres. Parmi ceux qui avaient donné une réponse positive à la lettre du Premier ministre, il y avait en effet un certain nombre de syndicats, on était trois. Il y avait les organisations d'employeurs.
Avec la CFTC, le CFDT, voilà. CFTC, vous.
Il y a les employeurs qu'on dit OK, on y va. Et j'ai bien vu que la CGT est quelque autres venaient à la conférence, mais pas forcément pour trouver un compromis.
Est-ce que l'État, vous parlez des entreprises qui vont faire entre 2 à 4 milliards d'économies, hein, enfin avec ces diminutions de cotisations sociales, de cotisations patronales sur les retraites pour les hauts salaires, il y a l'État aussi qui
oui,
va faire...
il y a les employeurs publics.
Oui, les employeurs publics.
On va regarder comment on fabrique une soulte, le terme est un peu technique, mais pour accompagner le fait que les économies faites par l'État soient réinjectées en masse salariale, ce qui fera des points, ce qui fera de la croissance pour tous les fonctionnaires.
Déjà sur les enseignants. Enfin,
les fonctionnaires
même si c'est inconstitutionnel d'après les...
Non, ce qui est inconstitutionnel, c'est de mettre dans... Enfin, ce qui serait inconstitutionnel, c'est de mettre dans une loi la promesse d'une autre loi.
Ouais.
Bon. Mais le geste politique fait, c'est de garantir cette promesse. En revanche, il faudra évidemment que la loi de programmation arrive vite parallèlement.
Exactement.
Ça, c'est, ouais. c'est le bas. Mais de l'autre côté, on a les employeurs publics qui pourraient alimenter, en effet, et pas que les enseignants, tous les fonctionnaires à l'hospitalière, à la territoriale, dans la fonction publique d'État, avec ces économies faites, en les réinjectant dans le salaire, ça serait bon pour l'économie et la croissance,
ouais.
et ça serait bon pour
le système.
Pour le système, parce que ça ferait des cotisations.
Ouais. Le gain pour l'État, c'est combien à peu près?
Il y a plusieurs chiffres. Le dernier que j'ai en tête, c'est plusieurs dizaines de milliards quand même. Donc je pense qu'on aurait de quoi faire. Alors il faut le vérifier avec les ajustements de la période de transition 2022, 2027, 2037 désormais pour l'application pleine et entière du futur système. On est en train de retravailler nous aussi là-dessus. À la fois pour être précis dans nos revendications, pour pas se faire avoir, et pour pas qu'il y ait d'économies cachées, quoi. Parce que on a intérêt à investir dans le système de protection sociale, parce que ça fait aussi, vous le disiez tout à l'heure pour les hauts cadres, mais c'est valable aussi pour toute la main d'œuvre et pour toutes les personnes qui font fonctionner cette économie dans notre pays. Le système de protection sociale est un élément d'attractivité, y compris des capitaux.
Absolument. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que si l'État fait de l'économie, j'ai envie de dire tant mieux. Lorsqu'on voit le niveau d'endettement de l'État, ce serait une bonne idée, non?
Oui, non, mais nous, on est précautionneux avec l'argent public. On pense que c'est précieux, parce que c'est l'argent de tous. Il faut qu'il soit bien utilisé. Et donc, il y a peut-être des niches fiscales à revisiter, et pas forcément seulement du côté des dépenses de fonctionnement de l'État, mais aussi dans les cadeaux faits aux uns et aux autres, au nom de performances économiques qu'on demande à avoir évalué.
En conclusion, Laurent, est-ce que vous avez lu cette étude de l'OFCE qui montre les effets négatifs de la politique fiscale du chef de l'État sur le pouvoir d'achat des 10% les plus modestes. Donc, toujours la question, président des riches, Bruno Le Maire a répondu tout de suite en disant non, mais ils oublient d'intégrer des mesures qui ont été prises, prime d'activité et encore d'autres choses.
Il y a une polémique, en effet, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais pour ce qui est de l'OFCE, ça veut dire qu'on ne doit pas oublier jamais les 10% de nos compatriotes les plus fragiles, les plus précaires financièrement. Et toute mesure, d'ailleurs, devrait commencer par une mesure d'étude d'impact quand on change des choses dans notre système de protection sociale ou dans notre économie concernant ces 10% les plus pauvres de notre pays.
La réforme des retraites, vous avez 10 secondes, de ce point de vue-là, elle répond, puisqu'il y aura, ce sera 1000 euros, grosso modo, le minimum. Donc là, c'est une réforme.
On est fiers de ça.
Pour les plus modestes. Hein,
oui. Plus tard, 85% du SMIC, peut-être un peu plus, c'est ce qu'on demande, y compris à des temps partiels. Oui, pour certaines personnes qui sont 20% des salariés du privé, ça fera un 13e, voire un 14e mois par rapport à la situation actuelle, et c'est pas rien.
Donc c'est pour ça que c'est quand même une retraite, une réforme de gauche, comme dire, en tous les cas, pour certains.
Moi, je ne me prononce pas si elle est de droite ou de gauche.
Voilà, je suis un peu d'accord, mais j'ai cherché une autre expression.
Au mieux, les salariés et l'intérêt général.
Merci beaucoup, Laurent Escure, d'avoir été avec nous. Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve demain. Bonne journée. D'ici là.